le magazine des Nations Unies.
Enfants congolais souffriront de malnutrition aiguë et 400 000 pourront mourir si aucune assistance n'est faite. C'est d'alarme de l'UNICEF et les mercredi dernier à Kinshasa. En réaction, la Belgique accorde 10 millions de dollars américains d'appui à la FAO et au PAM pour mieux assister les nombreux déplacés, dont des enfants dans le Grand Kassai. Pendant ce temps, l'Union européenne choisit l'eau potable pour célébrer la journée internationale des droits de l'homme dans deux quartiers oubliés de la capitale. Dans cette édition, un invité, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, pour évoquer cette expérience réussie de coopération. Quel rôle pour un magistrat en période électorale et post-électorale? Pour en parler, Mac Youen a approché l'avocat général. C'est à l'occasion d'un séminaire du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, cette semaine, à l'attention des magistrats de la capitale. Enfin, les PNUD décernent des prix aux lauréats du concours sur l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes. Les détails dans ce numéro de votre magazine. Et voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de suivre le Mag UN. Nous le disions dans le sommaire, 2 millions d'enfants congolais de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère en 2018 et 400 000 pourront en mourir dans la région du Kassai s'il n'y a pas d'assistance humanitaire. Cri d'alarme de l'UNICEF répercuté mercredi dernier à Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies par la voix du chargé de communication d'Ocha RDC, Yvon Edoumou. Les propos d'Yvon Edoumou recueillis ici par Honoré Missenga Kalala.
Au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans dans la région du Kassai souffrent de malnutrition aiguë sévère et pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés par des interventions humanitaires. C'est l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui lance ce cri d'alerte en indiquant que 25 zones de santé sont actuellement en crise nutritionnelle. Cette situation est le résultat de la baisse de la production agricole et des pénuries alimentaires causées par des déplacements massifs de personnes autour des 18 derniers mois dans les provinces du Kassai. La malnutrition est un problème chronique et répandu en RDC. 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de sa forme chronique et UNICEF estime que plus de 2 millions d'enfants pourront souffrir de malnutrition aiguë sévère en 2018.
Autre chose, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACER, lance cette semaine l'opération des transferts monétaires aux personnes vulnérables dans les provinces du Kassai central et du Kassai oriental. C'est en tout cas ce qu'indique un communiqué du ACER. Ces transferts se feront en collaboration avec les ONG Action Aid et Conseil norvégien pour les réfugiés. Les détails avec Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Au total, 2100 ménages, composés de plus de 16 000 personnes, bénéficieront de cette action humanitaire du ACER. Ce sont des déplacés internes, des familles d'accueil et des retournés les plus vulnérables. Ils recevront de l'argent en espèces ou des bons d'achat électroniques pour l'achat des biens de première nécessité ou des fonds de démarrage des activités économiques. Selon le ACER, les localités ciblées sont celles qui ont été fortement affectées par les violences pendant la crise au Kassai. Précisément dans les territoires de Dimbelenge et de Kazumba au Kassai central et de Kabeakamwanga au Kassai oriental. Au-delà de cela, 200 ménages dans les territoires de Kazumba recevront également une assistance qui leur permettra de reconstruire leur maison, car la destruction des abris est l'un des principaux problèmes qui freinent le retour et la réintégration de la population déplacée.
Nous retenons encore Jean-Pierre Lally dans ce studio. Nous sommes toujours dans le domaine humanitaire. Selon un communiqué conjoint PAM et FAO, les deux agences ont reçu un financement de 10 millions de dollars américains du gouvernement belge pour appuyer leurs interventions dans le Grand Kassai en vue de l'amélioration des conditions de vie et des sécurités alimentaires et nutritionnelles de près de 18 000 ménages dans la région. Les détails avec vous, Jean-Pierre Lally, Coco.
Grâce à cet appui financier, le PAM procédera à la distribution d'une ration de farine de maïs fortifié, des légumineuses, du lait végétal et des sels iodés à 31 000 personnes. À partir de janvier 2018, il utilisera les cash à l'attention de 50 000 personnes. De son côté, la FAO fournira à 6 700 ménages des déplacés retournés assistés par les PAM, des kits maraîchers composés d'une houe, d'un râteau, d'une bêche, d'un arrosoir et des 40 grammes de semences de légumes, ce qui permettrait à chaque famille de produire environ 80 kg de nourriture. Ces actions combinées résulteront d'une approche intégrée mise en œuvre par les deux agences onusiennes. Dans 3 à 4 mois, cette combinaison de l'aide alimentaire et agricole permettrait à ces 18 000 familles à la fois un accès durable à l'alimentation et la possibilité de dégager de revenus. Pour rappel, la crise dans la région du Kasaï date d'août 2016. Elle a entraîné une crise humanitaire profonde et des violations massives des droits de l'homme, avec à la clé plus d'un million de déplacés et un peu plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
50 magistrats renforcent leurs capacités sur la prévention et la répression des violations des droits de l'homme et des libertés publiques en période électorale. C'est au cours d'un atelier organisé du 12 au 13 décembre dernier par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, ici à Kinshasa. À l'ouverture donc des travaux, Jean-Pierre Elali s'est entretenu avec l'avocat général Boukolomé Gerli. Suivez.
Monsieur l'avocat général Boukolomé Gerli, bonjour.
Bonjour.
Nous assistons aujourd'hui à l'ouverture de l'atelier des renforcements des capacités avec les magistrats, et notamment sur leur rôle en période électorale. Quel est le but de cet atelier?
Le but, comme pour tous les ateliers, c'est la formation des magistrats, en fait, en renforcement des capacités. Ce ne sera vraiment pas une formation parce que les magistrats connaissent les différents textes. Il s'agit simplement d'un échange pour que chacun d'eux ait les outils nécessaires pour affronter la période électorale qui est, comme tout le monde le sait, une période très délicate.
Oui, c'est une période très cruciale. Mais un atelier comme ça et en période électorale, tout le monde s'attend à ce que les magistrats soient outillés. Mais maintenant, quelles sont les attentes contre ces assises?
Je crois que le modérateur de la formation a dû récolter les attentes et principalement les magistrats ont voulu être outillés par rapport à la documentation parce qu'il y a des textes, des lois parfois qui échappent, qui sortent parfois et qui n'ont pas. Ils doivent avoir l'outil nécessaire qui est l'outil principal, ce sont les textes de loi et ensuite à travers les échanges voir comment aborder certaines questions et notamment surtout en ce qui concerne la prévention et la répression des violations des droits. Et des libertés. C'est ça qui est le plus important. Et les magistrats ont voulu aussi qu'on puisse insister sur l'indépendance. Et donc, c'est un sujet qui reviendra lorsqu'on va aborder des thèmes sur l'éthique et la déontologie des magistrats, sur les valeurs essentielles qui doivent être celles d'un magistrat pendant cette période. Et ce sont les mêmes valeurs, mais pendant cette période, on veut insister pour que les magistrats puissent les mettre vraiment en évidence.
Vous parlez de l'indépendance de la magistrature ou des magistrats pendant la période électorale notamment. Vous ne craignez pas l'émiction devenue pratiquement chronique du politique dans l'exercice du métier des magistrats pendant cette période électorale et même aux contentieux électoraux?
Bon, mais je ne pense pas. Oui, la crainte peut-être, mais l'indépendance de la magistrature, d'abord l'indépendance par rapport à soi-même. Le magistrat, il est formé pour être indépendant lui-même par rapport à ce qu'il doit avoir comme attitude par rapport à un dossier qu'il est en train d'examiner. Il doit être indépendant par rapport à sa conscience. Dans la symbolique de la toge noire que le magistrat porte, il est au-dessus des passions, au-dessus de tout. Et il a le rabat blanc qui montre la candeur, la blancheur, l'innocence de sa conscience. Donc le magistrat ne peut pas avoir peur. On parle souvent de ce thème-là, d'immixion et tout ça, mais le magistrat n'est pas tenu de suivre une injonction quelconque.
Dans la pratique, c'est ce qu'on remarque à travers toutes les juridictions.
Oui, mais ce sont des affirmations. Moi, je sais que le magistrat ne répond que de la loi. Il a comme outil, comme direction, comme directive, sinon comme principale référence, c'est la loi et sa conscience. Si un politicien, comme vous le dites, s'arrange pour s'immiscer, d'abord c'est un politicien doit qualifier que c'est un mauvais citoyen parce qu'il ne laisse pas les autres faire leur travail, mais ce magistrat qui reçoit les injonctions ou qui voit les immixtions, il est suffisamment outillé pour jeter, pour se montrer suffisamment indépendant.
Lorsqu'il s'agit de contentieux électoraux, ce sont les magistrats qui sont mis en œuvre. Et est-ce que cela est prévu aussi au niveau de l'atelier ici?
Oui, le processus électoral comprend plusieurs étapes. La loi électorale, la préparation du fichier électoral, l'enrôlement et l'appel des candidatures, le dépôt des candidatures, parce que le contentieux, ce n'est pas seulement le contentieux de résultats, il y a aussi le contentieux des candidatures, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires et des résultats définitifs. Tout ça fait partie du processus. Alors, toutes ces incriminations, toutes ces infractions qui se commettent pendant cette période, les magistrats doivent être outillés, comment les prévenir, comment aller comme en titre prophylactique, ensuite comment les réprimer lorsque ces infractions sont éventuellement commises. Donc on parlera nécessairement aussi du contentieux électoral.
Monsieur l'avocat général, un mot avant de terminer, un mot sur la collaboration avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme.
Bon, le Conseil supérieur de la magistrature, par le secrétariat permanent qui m'a demandé de répondre à vos questions, remercie sincèrement le Bureau conjoint des Nations Unies pour l'appui logistique qu'il ne cesse de fournir à la magistrature, surtout dans le cadre de la formation des magistrats. Et je crois me joindre à cette marque de gratitude pour remercier une fois de plus le Bureau conjoint, parce que c'est un atelier très important, surtout en cette période.
Monsieur l'avocat général, Radio Kapi vous remercie.
Merci.
Information plus bref, d'abord volet droit de l'enfant, un nombre important d'enfants continue de subir les répercussions violentes du conflit armé dans les régions du Kassai, Kassai central, Nord Kivu et Sud Kivu. C'est un rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO qui l'affirme. Mercredi dernier, au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa, le chiffre donné a été de 87 enfants victimes des violences graves de leurs droits fondamentaux au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 57% en comparaison du rapport précédent. D'une section à une autre, toujours au sein de la MONUSCO, cette fois-ci nous sommes à Kolwezi dans la province du Lualaba, où la section des affaires civiles de la MONUSCO Lubumbashi a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'attention des personnes, dont 17 femmes de la société civile de cette province. Cet atelier a porté sur la prévention et la réduction des violences liées au processus électoral. Les participants à cette séance ont ainsi renforcé leur connaissance sur leur rôle dans la mobilisation de la population, l'éthique et la déontologie, la communication, la paix communautaire et l'exercice des libertés publiques en période préélectorale et électorale. Enfin, la Tanzanie demande l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat par des présumés rebelles ougandais de l'ADF de ces 14 soldats casques bleus de la MONUSCO. Le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa l'a souligné jeudi 14 décembre 2017 lors de la cérémonie à Dar es Salaam d'hommage aux soldats tués. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, était présent à cette cérémonie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce dimanche est M. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il était la semaine dernière à la tête d'une délégation des diplomates européens qui ont visité des projets de forage d'eau dans deux quartiers de la commune périphérique de Kimbanseke et Kinshasa, et ce, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. À l'issue de cette visite, M. Bart s'est confié à Jean-Pierre Lali Coco. Suivez leur entretien.
M. Bart Ouvry, bonjour.
Bonjour.
Nous venons de visiter avec vous des projets qui sont initiés par l'Union européenne et qui concernent justement l'accès à l'eau potable. Le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, qui parle des droits de l'homme, parle plutôt des lois fondamentales, des droits de l'homme tout court. Vous êtes intéressé au forage d'eau. Comment expliquer ces choix?
Vous savez, les droits de l'homme portent sur les droits politiques, civils, mais aussi sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et cela fait un tout. Ici, nous avons un exemple intéressant où, oui, il y a un puits de forage, mais il y a beaucoup plus. Il y a une association qui a été créée, une association des habitants de ce quartier de Kimbanseke à Kinshasa, et les gens prennent leur sort en main. Ils décident eux-mêmes où il faut placer des bornes avec de l'eau. Ils discutent parmi eux des prix de l'eau qui est très abordable, et ils veillent eux-mêmes, en tant que communauté, sur la sécurité et l'intégrité des installations. Et donc, il nous a semblé que c'est un excellent exemple où les gens exercent leur droit à s'associer, leur droit à l'eau, et donc aussi leur droit à la santé. Parce que l'eau potable de bonne qualité est une eau qui garantit la santé. Et on a vu dans ce quartier une diminution de toute maladie liée à la mauvaise qualité de l'eau qu'on avait auparavant.
Vous avez lu l'enthousiasme de la population et leur engouement sur le projet. Est-ce que nous pouvons espérer que dans les jours à venir, l'Union européenne va axer son action, notamment dans le domaine de l'eau?
Les efforts de l'Union européenne, bon an, mal an, portent sur un budget d'à peu près 200 millions. Dans ce cadre, nous avons un appui régulier aux citoyens, aux associations, à la société civile, particulièrement ces exemples. Nous croyons que quand les gens peuvent se réunir autour d'un projet très concret tel que l'accès à l'eau, ils font plus. Et ici, on l'a vu, nous avons vu que le projet eau a permis d'avoir aussi la construction d'une école, construction d'une bibliothèque où nous sommes actuellement, mais aussi une salle polyvalente. Et donc, nous voyons que quand la communauté, quand les associations se forment, les gens prennent leur sort en main et forment une communauté et assurent leur prospérité. Et donc pour nous, c'est un secteur prioritaire. Donc oui, l'accès à l'eau, c'est essentiel. Il faut avoir une pompe, il faut avoir un générateur, mais il faut quand même aussi prendre soin que ce soit la communauté qui prenne en main son sort, et ce sont des Congolais qui se réunissent et qui assurent que les installations sont entretenues. Quand il y a une panne, il y a l'Assurep, qui est une association des associations. Et vous savez, aujourd'hui, ils assurent déjà l'accès à l'eau pour au-delà d'un million d'habitants du Kinshasa. Et cette association aussi assure l'emploi pour plus de 1000 personnes. C'est une performance importante et nous espérons à l'avenir de continuer à soutenir un tel effort.
Une dernière question, monsieur l'ambassadeur. On ne peut pas parler de l'eau sans parler de l'assainissement. L'Union européenne était associée ou a financé un projet d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Et une fois de plus, jusque-là, plus rien ne s'est fait. Est-ce que vous avez abandonné ce projet et maintenant, au niveau de l'hôtel de ville, les efforts ne sont pas faits? Et qu'est-ce que vous croyez pour l'avenir de ces projets?
Vous et moi, nous sommes habitants de Kinshasa et nous voyons en effet que la situation laisse à désirer. Le projet d'assainissement de la ville de l'Union européenne s'est terminé et malheureusement, il n'y a pas eu le suivi que nous avions espéré de la part de la ville. Nous ne désespérons pas parce que nous voyons que certaines infrastructures, certaines connaissances sont toujours là. Et donc, nous espérons vivement que la ville-province de Kinshasa reprendra en main le projet et va assurer un assainissement. Mais là, je vous mentionne quand même que ce matin, j'ai appris que dans le cadre de ce projet, les habitants ici ont commencé à prendre en charge aussi la collecte des ordures ménagères et de cette manière prennent eux-mêmes en charge cette problématique. C'est peut-être une alternative qui ne peut pas se pratiquer dans certains centres, mais dans des quartiers tels qu'ici à Kipanseke, c'est probablement une bonne solution.
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie.
C'était un plaisir de parler pour Radio Okapi.
Jeunes, entrepreneuriat et innovation, c'est le thème du concours organisé par le PNUD pour les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM, en marge de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 2017. Lancé le 17 octobre dernier, ce concours s'est clôturé le jeudi 7 décembre par l'organisation dans la soirée à l'Halle de la Gombe d'un défilé de mode ainsi que de la remise des prix aux lauréats en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et du directeur pays ad intérim du programme des Nations Unies pour le développement en RDC. C'est un reportage d'Honoré Missenga Kalala.
Le gagnant s'appelle Litinga.
C'est donc l'étudiant Ali Kinda de deuxième licence management qui a remporté le prix dans la catégorie mode et développement durable avec sa robe bouchon frappé, un modèle parmi les 13 projets qui a été sélectionné en fonction d'un certain nombre de critères retenus par le jury.
Nous avons eu à côté certains aspects du domaine de la mode, entre autres les achèvements. Nous avons eu à côté la présentation du vêtement, de la tombée, de manière générale, entre autres le dos, le devant, le profil, qui pour un technicien est important. Nous avons eu à côté la représentation des éléments recyclés, comment les étudiants ont disposé ces éléments sur leur tenue. Il y a eu aussi un autre aspect avec nos amis du PNUD qui ont eu à réaliser deux éléments essentiels. Premièrement, la tombée du vêtement et deuxièmement, l'aspect recyclage.
Trois autres prix ont été remis dans la catégorie création d'entreprises innovantes et entrepreneuriat et tous ces prix dans les deux catégories étaient constitués chacun d'un matériel de couture semi-industrielle d'une valeur de 1 300 $ américains. Et quel était l'objectif de ce concours? Explication du directeur pays AI du PNUD.
Lutter contre le sous-emploi des jeunes et sensibiliser les futurs diplômés aux perspectives de création d'entreprises innovantes. En fait, le PNUD reconnaît le rôle crucial joué par les jeunes entrepreneurs dans la lutte contre la pauvreté. Quels éléments de contexte nous rappellent l'urgence d'encourager la création d'emplois chez les jeunes?
Il va falloir donc continuer à investir dans la créativité, l'ingéniosité et le talent de la jeunesse pour éliminer la pauvreté, a conclu le directeur pays du PNUD.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je vous invite à suivre cette question posée mercredi dernier lors de la conférence de presse des Nations Unies. Elle a été adressée plutôt à CR et vous aurez bien évidemment la réponse donnée par son chargé de relations extérieures, Andreas Kirchhoff.
Merci, c'est Elvira Pange pour le compte de la RTL. Je pense qu'il y a un représentant du HCR pour répondre à ma préoccupation. Un véhicule du HCR prêté par la Commission nationale pour les réfugiés qui a été saisi hier à Goma et qui avait à son bord 12 colis de coltan. Dans un communiqué publié hier par le HCR, le représentant a précisé qu'aucun de ses personnels n'est impliqué dans la fraude minière. J'aimerais quand même avoir plus d'explications sur cette affaire. Merci.
On travaille avec plusieurs partenaires en RDC et parmi eux la Commission nationale pour les réfugiés. Le HCR met à disposition de ses partenaires des moyens logistiques, entre autres des véhicules. C'est-à-dire ces véhicules sont utilisés sous la complète responsabilité pendant une période étendue par les partenaires. Les partenaires ont la responsabilité exclusive de l'utilisation de ces véhicules. Nous, on a fait des recherches si il y avait du personnel HCR sur place. Il n'y a pas eu de mission pendant la journée et le véhicule était utilisé par les partenaires. C'est tout qu'on peut dire à ce moment-là.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, moi c'est Loïc Daya. Je suis marié, père d'une jolie petite fille, nom de Shukran Daya. Je suis gradué en télécommunication réseau informatique, donc à l'ISMICOM, pour ceux qui connaissent, ils savent bien. Et je suis au HR depuis le 17 juillet 2013. Précisément ici, mon lieu d'affectation c'est Guadolité et j'occupe la fonction de ICT Associate. Donc je suis en charge de tout ce qui est réseau internet, tout ce qui est télécommunication avec Motorola. Et chaque matin quand j'arrive, je fais d'abord la ronde du bureau, porte à porte, pour saluer les collègues et puis leur demander leurs attentes qui cadrent dans le domaine informatique, qui cadre dans le domaine de la télécommunication. Comme quoi, bon voilà, je n'arrive pas à imprimer, je n'arrive pas à envoyer un mail, ma radio ne marche pas. Et mon parcours professionnel avant le HR, j'ai beaucoup sillonné. Avant ça, j'étais chez Global Broadband. Et c'est une boîte qui s'occupe de la connexion Internet par VSAT et boucle locale radio. Avant ça, j'ai été chez Orioncom un moment. J'ai travaillé là-bas et puis bon, soudain un jour, la chance a souri que je suis maintenant aux Nations Unies. Donc voilà un peu en bref le parcours. Je n'ai pas vraiment un parcours administratif, si ce n'est que plus technique, parce que j'aimais déjà la technique depuis bien avant. Et comme il y a beaucoup de temps de travail, il y a aussi des temps libres. Mes temps libres, j'aime souvent le passer dans le calme. Quand je dis dans le calme, pas le silence absolu, mais en faisant quelque chose qui me ramène un peu loin du travail. J'aime parler, je suis un peu comique. Donc j'aime un peu parler avec les gens pour me déstresser. Surtout avec le quoi on nous semble. C'est vraiment très reculé que si vous êtes toujours fusé par le travail, vous finirez un jour par lâcher. Et par rapport à mes préférences, côté musique, j'aime beaucoup la musique, mais plutôt la musique chrétienne. Parce que je suis chrétien, donc je suis aussi berger à l'église d'abord, mais ici à Guadeloupe, je salue même mon pasteur en passant. Voilà, donc j'aime la musique qui cadre avec l'adoration. Il y a des bons morceaux de l'adoration avec Atoms, beaucoup de gens là. Et par rapport au sport, le sport que j'aime, c'est plus le basket. Malheureusement, là où je suis, il n'y a pas de terrain de basket, donc je me laisse plutôt emballer par le foot. J'aime aussi regarder le foot. Et comme tout chrétien, je regarde plutôt le Barça parce que on a quelqu'un qui est Messi. Donc voilà. Et j'aime beaucoup manger comme tout le monde. Et j'aime beaucoup le riz avec l'haricot. C'est ce que j'aime beaucoup. Après le HCR, bon, vous savez, pour la petite histoire, l'humanitaire c'est bien, les Nations Unies c'est bien, ça paye bien, il faut dire la vérité. Mais seulement, ça nous écarte et ça nous éloigne de nos familles. Je suis ici il y a déjà presque 4 ans ou 5 ans, si je ne m'abuse pas. Je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, je suis très loin. C'est vrai que tu gagnes mieux par rapport aux autres, mais vous voyez, la communion fraternelle, la famille, c'est quelque chose qui compte toujours. Ouais. Donc je compte à un certain âge parce que en voyant mes aînés, mes sœurs, mes frères qui sont ici, ils ont presque raté la vie fraternelle, la vie du couple. Ouais. Donc je compte déjà vers 40 ans arrêter, évoluer un peu en faisant des activités propres à moi-même. Où moi-même je serai moi-même mon PDG, moi-même mon directeur. Donc je serai tout dans ce qui est du domaine aussi informatique, oui, mais où je serai moi-même maître. Ah. Je salue d'abord ma femme, Laetitia Kilengala, où elle est, le gros bisou avec ma fille, Soukran. Et je salue ma mère qui est à Kinshasa, loin de moi, mes frères et sœurs et à mes connaissances. Voilà un peu, et un grand merci à vous aussi. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux journées importantes pour cette semaine. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Et le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Jean-Claude Ntiala, la coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également Nori Missenga, Martin Sebjango et la supervisée. On se dit à très bientôt sur Radio Kapi. Portez-vous bien. Ciao.